Les conservateurs se caractériseront surtout par leur attachement à l'idée de sélection, qui est l'idée par excellence antidémocratique, c'est-à-dire l'idée d'une limitation forfaitaire, numérique du nombre des étudiants. C'est une idée antidémocratique, pourquoi ? Parce que, en premier lieu, actuellement, nul n'ignore que la plupart des étudiants, proportionnellement, beaucoup plus d'étudiants proviennent des classes sociales aisées que des classes populaires. Donc si maintenant nous créons des barrières, des barrages à l'entrée des études supérieures, alors nous figeons une situation qui n'est pas démocratique. Et là, il y a un certain nombre de professeurs qui, si on leur demande s'ils sont démocrates, diront qu'ils sont démocrates, mais qui pour d'autres raisons, trouvant qu'il y a trop de monde, voudraient une procédure de sélection qui, elle, n'est pas démocratique et qui ne songe pas assez à cela.
Edgar Faure, en 1969, ça grésille sur la ligne. Dans l'actualité des idées, 1968-2018, de la démocratisation à la sélection à l'université. 50 ans après, l'université peut-elle connaître un nouveau mai 68? Deux mois après le vote de la loi sur la réforme d'accès à l'université qui introduit un nouveau système de classement des dossiers pour réduire le taux d'échec en première année, c'est l'argument mis en avant par le gouvernement, la colère monte dans les universités. Hier, enseignants-chercheurs, ils sont plus de 400 à avoir signé une tribune sur France Info dénonçant une sélection absurde, apportant dans certaines universités comme à Tolbiac ou à Lille leur soutien aux étudiants. Les enseignants-chercheurs ont donc rejoint la discussion. Dans le viseur d'une partie des enseignants, le nouveau principe d'orientation par l'algorithme mesurant les chances de réussite en lieu et place du tirage au sort. Parcoursup, contrat d'admission post-bac. Qui dit mieux ? Eux, nos invités, signataires de cette tribune, notre premier invité, l'historien Christophe Charles, professeur à Paris 1, président de l'Association de réflexion sur les enseignements supérieurs et la recherche, auteur notamment d'une histoire des universités du 12e au 21e siècle, un ouvrage paru aux Presses universitaires de France en 2012. Bonjour Christophe Charles.
Bonjour.
À vos côtés et avec nous également Olivier Beau, professeur agrégé de droit public à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas, président d'honneur de Qualité de la science française, un organisme de réflexion sur la recherche ici en France, auteur entre autres des libertés universitaires à l'abandon, il y avait un point d'interrogation, pour une reconnaissance pleine et entière de la liberté académique, un ouvrage paru chez Dalloz en 2010. Vous êtes un défenseur de la liberté et de l'autonomie des enseignants-chercheurs et de la sélection à l'entrée de l'université. Bonjour Olivier Beau.
Bonjour.
En ces temps de disruption macronienne, est-ce qu'on pourrait rebooter, redémarrer mai 68 pour vous Christophe Charles?
Effectivement, on a l'impression, en entendant Edgar Faure, de se retrouver dans un débat qui reprend aujourd'hui, puisqu'en fait, c'est vrai qu'une partie des objectifs des étudiants qui se sont révoltés ou qui ont protesté au départ, mais qui ensuite se sont révoltés plus nettement en mai 68, c'était aussi à cause des questions de sélection. En tout cas, il y avait des projets dans les tuyaux de la part du ministre Alain Perfitte pour établir aussi déjà un processus de sélection à l'entrée de l'université. Donc on voit qu'on retrouve une très vieille question. Alors vous savez qu'ensuite il y a eu plusieurs tentatives au fil des décennies depuis pour refaire des procédures un peu du même type, avec des variantes, avec des attendus différents. Mais enfin c'est un peu une sorte de serpent de mer qui revient régulièrement dans l'actualité universitaire et qui suscite régulièrement aussi, bien entendu, des oppositions ou au contraire des prises de parti pour. Enfin, ça divise profondément, on le voit bien avec mon collègue et ami voisin, ça suscite des débats internes à notre communauté universitaire, mais aussi au sein même des étudiants, puisqu'il y a effectivement en ce moment un certain nombre d'universités qui protestent, qui sont occupées, hein, en particulier une des parties de l'université où j'enseigne, à Tolbiac.
Et avec des slogans de la part des étudiants qui accentuent cet effet de télescopage.
Se souviennent.
Voilà, alors fermé par l'administration, ouverte par ses étudiants, rien à dire, tout à faire. Tous ces slogans actuellement remis au jour font écho à mai 68.
Oui, on a l'impression qu'ils revivent le match, ou en tout cas qui se remémorent ce qu'ils ont lu, parce que je ne pense pas qu'ils soient assez vieux pour avoir été déjà étudiants à l'époque. Donc il y a effectivement des allures de déjà-vu. Alors en même temps, il faut tenir compte des changements. Je pense que c'est aussi là-dessus que nous allons discuter aujourd'hui. Le changement, même par rapport à 68, l'université de 68 n'a rien à voir avec l'université d'aujourd'hui.
Juste une réaction d'Olivier Beau. Est-ce qu'on peut, pour vous, 50 ans après, les étudiants peuvent imaginer refaire le match, pour reprendre l'expression de Christophe Charles?
C'est une question difficile, puisqu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Mais disons qu'en général, quand l'histoire se répète, c'est souvent sous la forme d'une farce. J'avais cru dire ça il y a longtemps. Donc je suis assez sceptique sur un nouveau mai 68. Je pense que les conditions sont totalement différentes. Les étudiants 68 avaient devant eux un plein emploi. Les étudiants d'aujourd'hui ont devant eux autre chose. Une grande inquiétude. Et je pense que l'université, depuis lors, c'est terriblement dégradé. Je pense que c'est ça qui change fondamentalement les choses. Et que l'annonce élection a aggravé la situation des universités. En tout cas, c'est notre diagnostic à nous au sein de qualité de la science française, qui a été fondée en 82 par Laurent Schwartz, homme de gauche, justement contre le projet qu'avait Savary de continuer sur la voie désastreuse d'Edgar Faure.
Alors, des similitudes dans les slogans des étudiants, des similitudes aussi dans la réaction des politiques, du gouvernement face à la situation actuelle. Je vous propose d'écouter Yves Mourouzi, c'était en novembre 1968.
Pour M. Edgar Faure, même si certaines réductions de crédits devaient être envisagées, il n'est pas question de revenir sur l'essentiel. En ce qui concerne les récentes manifestations d'étudiants à Nanterre, le ministre de l'Éducation nationale s'est montré très ferme. Je ne puis, a-t-il dit, laisser molester les professeurs et commettre des délits de droit commun dans les établissements d'enseignement. La révolution, a ajouté M. Edgar Faure, ne consiste pas à jeter des tomates sur un doyen, ce qui n'est rien d'autre qu'un geste inconvenant qui appelle une sanction pénale et nous y veillons.
Et la ministre Frédérique Vidal, s'est aussi plainte du retour des extrêmes dans l'université. Elle accuse les extrêmes qui cherchent à en découdre. C'était en réaction aux violences qui sont survenues chez vous, Christophe Charles, à l'université Paris 1, Panthéon Sorbonne. Voilà peut-être pour les similitudes dans la réaction, en tout cas, à l'événement. Si on en vient à cette idée de l'université que vous défendez, notamment Olivier Beau, quelle idée de l'université se dégage de cette loi orientation et réussite des étudiants?
La réponse est simple, il n'y a aucune idée. Il n'y a aucune idée, puisque l'idée, tout simplement, c'est une idée pratique, c'est de dire qu'il y a un problème qui a été soulevé et qu'on a découvert incidemment, mais qui existait depuis longtemps, c'était l'existence d'un tirage au sort. Tirage au sort qui ne choquait personne tant que ça ne touchait pas les médecins. En droit, à chaque fois je disais que mon université qui est censée être une université d'élite, Paris 2, on avait une partie de nos étudiants qui étaient tirés au sort, les gens étaient incrédules et pensaient que c'était pas très grave. Par contre, lorsqu'on a appris que les étudiants en médecine étaient sélectionnés par tirage au sort, c'est là, vous remarquerez historiquement, c'est là que d'un seul coup c'est devenu un scandale. Donc c'est intéressant de voir que, comme par hasard, cette question commence à agiter le milieu lorsqu'on s'aperçoit que des étudiants, excellents étudiants, vont être sélectionnés par un tirage au sort, ce qui est une absurdité pour le coup. Et c'est évidemment ce qui a été le détonateur, mais c'est le détonateur d'une situation qui existe depuis très longtemps. Il faut bien comprendre que le tirage au sort, ça vient après le APB, c'est-à-dire le triage par algorithme, et donc ça vient départager quelques milliers d'étudiants qui n'avaient pas trouvé de place. Et donc c'est évidemment absurde, et le gouvernement a saisi cette occasion, et il a fait ce qu'on aurait dû faire depuis maintenant près de 40 ans, et que le général de Gaulle voulait faire en 62, c'est-à-dire introduire une sélection, tout simplement, pour essayer de donner des chances aux étudiants qui vont à l'université, et ne pas faire ce qui se passe aujourd'hui. Parce que quand même, la chose qu'on oublie quand même fondamentalement, c'est qu'on a plus de 60% d'étudiants qui vont à l'université qui n'obtiennent pas leur licence. Alors, on dit que c'est les universitaires qui sont responsables de l'échec, parce qu'on note de façon trop sévère. Mais non, c'est pas tellement ça le problème. C'est qu'on arrive avec des étudiants qui ont des conditions difficiles de travail et qui n'ont pas l'habitude de travailler seuls, qui sont jetés dans cette arène, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, qui est la première année, et qui sont totalement désemparés, et dont certains n'ont pas les compétences minimales pour poursuivre des études supérieures. Voilà le problème. Et je pense que n'importe qui de bon sens connaît cette situation.
Christophe, Charles, et après je vais donner la parole à Antoine Mercier, qui est resté à mes côtés pour vous interroger sur ce retour des extrêmes. On trouve peut-être parmi les étudiants qui bloquent aujourd'hui les universités, qui contestent cette réforme, une partie de militants d'extrême gauche, mais ce qui est aussi
d'extrême droite aussi.
Ou d'extrême droite à noter, ou d'extrême droite.
Sinon, il n'y aurait pas d'affrontement.
Ce qui est aussi à noter, c'est que cette contestation, cette colère contre cette réforme, elle commence à gagner aussi tous les secteurs, toutes les sphères de l'université, des étudiants bien sûr, mais aussi des enseignants chercheurs. Et vous l'avez illustré hier avec cette tribune collective que vous avez signée sur le site de France Info, mais aussi des conseils d'administration des universités, Tolbiac, Lille, Poitiers, Tours. Ce n'est pas que Paris qui est concerné aussi par la contestation de cette réforme. Vous ne vous sentez pas, vous, extrême dans vos arguments pour la contrer?
Non, mais je pense, de toute façon, on dit toujours que c'est les extrêmes, mais Pareil en 68, si ces extrêmes n'avaient pas été soutenus par un certain nombre de gens et s'il n'y avait pas eu suffisamment de gens dans la rue, ça serait terminé très très vite 68. Donc il y avait quand même un malaise plus général qui touchait des gens qui n'étaient absolument pas politisés ou qui n'avaient pas forcément ces idéologies anarchistes ou marxistes extrémistes qu'on a connu en 68 ou qu'on voit renaître aujourd'hui. Je pense qu'ils ont trahi, ils ont traduit un malaise d'une partie de la jeunesse qui, effectivement, enfin, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout le diagnostic de mon voisin, il y a un malaise des étudiants à l'université, il y a un désarroi de ces étudiants, à la fois parce qu'il y a des injonctions contradictoires. D'un côté, on leur dit continuer des études, et puis en même temps, on ne leur donne pas les moyens pour les continuer correctement, puisqu'il y a quand même 30 à 40% qui sont obligés de travailler en même temps, ce qui nuit bien entendu à leur réussite. C'est un point qu'il faut tenir en mémoire. Il y a d'autre part une dégradation, hein, j'ai des chiffres qui sont en public, sur la dégradation des moyens donnés aux universités en francs, en euros constants. Hein, il y a une augmentation des effectifs des étudiants depuis 2012 et depuis 2013, on voit une baisse en euros constants des budgets quand on déflate. Et d'autre part, il y a une baisse aussi du nombre des enseignants-chercheurs en termes de recrutement à cause des effets négatifs de la loi Pécresse qui a fait qu'on a gelé des postes régulièrement pour rééquilibrer les budgets. Donc ça prouve bien qu'il y a une lacune dans les budgets. Et donc les conditions de travail à la fois des étudiants qui voient un nombre d'enseignants insuffisant pour les encadrer et les conditions de travail des enseignants qui voient leur charge s'alourdir, puisque évidemment il faut faire des heures supplémentaires quand il manque des collègues, etc. Tout ça explique un malaise général. Donc, bien sûr, il y a l'enjeu pratique de cette loi dont beaucoup ne sont pas convaincus qu'elle va résoudre le problème réellement, mais il y a aussi, plus généralement, un malaise de l'université qui, depuis les années 2010, voit sa situation se dégrader et surtout des politiques qui se fient à des indicateurs simplement apparents. Qu'est-ce qu'on veut montrer ? On veut montrer qu'on monte dans les classements internationaux. C'est le grand thème des regroupements universitaires, de l'excellence, etc. Mais ça ne concerne qu'une toute petite minorité, à la fois des enseignants-chercheurs et des universités, et ça ne joue en aucun cas en faveur des étudiants de base, qui, eux, évidemment, ne sont pas là pour attraper le prix Nobel. Donc on est dans une contradiction entre des politiques qui ne soignent pas les causes profondes.
Une question d'Antoine Mercier.
Moi, j'étais frappé par ce slogan là qui est à Tolbia, que j'ai vu sur une photo. Nous ne voulons pas le pouvoir, nous voulons pouvoir. Nous voulons pouvoir, donc c'est pas l'imagination au pouvoir, mais simplement le fait de pouvoir. Ça signifie quoi selon vous? Cette expression, comme si il n'y avait plus de possibilité finalement, qu'on réussisse ou pas d'ailleurs ses études, d'intervenir sur le cours des choses et qu'il fallait se ranger dans des catégories, des cases.
Je crois que là, bon, je sais pas qui a écrit ce texte, parce que moi quand je suis historien, je veux savoir qui a écrit ce texte. Est-ce que c'est un texte vraiment...
Un ancien 68 art, c'est ça vous voulez dire?
Non, mais en tout cas, est-ce que c'est pas une reprise de choses beaucoup plus élaborées dont il manque le contexte? Je crois qu'il y a surtout le sentiment, effectivement, pour les étudiants d'être très loin du pouvoir tel qu'il s'incarne, disons, dans la présidence de l'université, dans le conseil d'administration, même s'il y a des élections où les étudiants, en principe, doivent voter et doivent élire des représentants. Quand on regarde les taux de participation, on est à 10-15%, ce qui prouve qu'ils ne se sentent pas concernés par ces organismes, qui pourtant sont des organismes qui ont été conquis en 68 pour leur permettre justement d'avoir accès à une certaine parole et à une certaine prise de décision. Donc là, il y a une contradiction, effectivement. Ces institutions ne fonctionnent pas pour les étudiants comme élément d'identification ou d'insertion dans l'université. Donc ça prouve bien aussi un échec. Nous voulons pouvoir, je pense que c'est aussi, ça c'est l'inquiétude plus globale de la société française, à quoi servent les études, hein? À quoi servent les études? Alors, le grand slogan dans les années 90-2000, c'était professionnalisation. Très bien, sauf que on le sait bien, le taux de chômage il reste ce qu'il est aujourd'hui. Il y a des très grandes inégalités selon les secteurs. Il y a des types d'études qui ont 100% de réussite au bout en termes d'insertion, et d'autres on a au contraire une dégradation, une perte de statut social des gens, même avec des diplômes qui autrefois avaient une certaine valeur. Donc je crois que c'est ça, c'est un sentiment d'impuissance à l'intérieur de l'université et par rapport à la gestion de son propre avenir, puisque même si on décroche les diplômes, ce qui n'est pas toujours le cas comme on l'a dit, mais ça ne prépare en rien à une capacité d'insertion, et je crois que c'est ça le grand malaise. Et donc, pour ça que la sélection qui s'abat dès le début, les gens se disent, bah, ça y est, moi, maintenant, c'est fini, ma vie est terminée si j'ai pas le type d'études que je souhaite. Yeah. Alors, bien entendu, les gens diront, on n'a pas droit à tout dans la vie, et la vie n'est pas faite que de roses. Mais je pense que pour des gens qui ont 17 ans, leur dire c'est déjà plié à 17 ans, c'est inquiétant pour eux.
Juste sur le pouvoir, ouais. Autre slogan repris de 68 et remis au goût de jour aujourd'hui, c'est nos confrères du Parisien qui se sont baladés d'une fac à l'autre et qui ont recensé un certain nombre de slogans à l'œuvre aujourd'hui. Il y a le « ne prenez plus l'ascenseur, prenez le pouvoir », c'en est un autre. Olivier Beau, vous vouliez réagir ?
Oui, je voudrais quand même dire deux ou trois choses sur la sélection. D'abord, contrairement à ce qu'on dit, la loi telle qu'elle est ne fixe pas, n'impose pas la sélection. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il est bien prévu qu'il y a un droit à tout bachelier. Donc, évidemment, les syndicats d'étudiants ou les ceux qui mobilisent, un droit à poursuivre les études, un bachelier a le droit de poursuivre. C'est le premier article de la loi.
Où ils le souhaitent
Ils non, le peuvent, dans les endroits où il n'y a pas de non. Il y a oui et oui si. Donc si un étudiant, donc on dit aux étudiants qu'ils n'auront plus le droit d'aller à l'université, ça c'est faux. Bon, on peut mobiliser sur des choses fausses, c'est comme ça que souvent ça marche, mais en tout cas c'est faux. Lorsque le mot de sélection est utilisé dans la loi, c'est uniquement pour, et c'est utilisé, le terme utilisé, c'est pour BTS, IUT, grands établissements. Donc il faudrait quand même, deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on s'étonne à chaque fois que qu'on veuille imposer la sélection universitaire, alors que la sélection, c'est elle qui détermine le système majeur des Français, c'est-à-dire les grandes écoles. On a un système dual dans l'enseignement supérieur, où les universités restent le parent pauvre d'université, de l'enseignement supérieur, parce qu'on ne peut pas sélectionner. Et si à QSF, on se base depuis longtemps sur l'histoire de la sélection, c'est parce que nous, c'est le point, selon nous, c'est le point nodal. C'est parce qu'il n'y a pas de sélection à l'université qu'on passe toujours derrière. Les chiffres qu'il faut avoir en tête, c'est pas les chiffres que, justement, sur le nombre, on doit avoir le nombre d'échecs, mais 80%, 90% des étudiants qui ont une mention très bien ne vont pas à l'université. Autrement dit, l'université accueille ceux qui ne vont pas dans les classes prépa ou dans, même encore plus pervers, IUT et BTS, qui étaient au départ une formation courte, ça a été complètement détourné de son sens, où on a des très bons étudiants, souvent issus de milieux sociaux défavorisés, qui ont des bourses, ils vont dans ces filières courtes, et ensuite ils rejoignent l'université.
Et donc vous c'est pensez, Olivier Beau, qu'on gagnerait quelque chose à calquer les universités sur le système des grandes écoles ?
La question que je pose, c'est pourquoi est-ce que tout le monde admet le principe de la sélection pour les grandes écoles, ça c'est tout à fait normal. Pour médecine, c'est tout à fait normal. Et nous, quand petite université, on dit bah pourquoi nous on pourrait pas sélectionner ? C'est ne pas dire éliminer, mais sélectionner, c'est-à-dire adapter donc l'offre de formation à la demande. Pourquoi nous on nous impose tout de suite d'être antidémocratique ? Alors à ce moment-là, faut supprimer les grandes écoles, faut supprimer les IUT, faut supprimer tout ça. Donc il y a un problème de logique. Et je vous renvoie à l'article excellent de Antoine Compagnon dans le débat qui s'appelle Bac sélection université, qui commence son article par un guide des Américains qui explique aux étudiants américains qui vont aller en France. Alors ne soyez pas surpris, en France, il n'y a pas de sélection d'université. Ceci est absolument absurde, of course absurde. Donc, mais c'est comme ça, c'est pour ça que les universités sont surpeuplées. Et donc, pour les étrangers qui étudient le cas français, ils ne comprennent pas. Il n'y a pas un autre exemple dans le monde d'un système de ce type.
Olivier Beau, Antoine Compagnon, dans cet article, entre autres, qui appelle aussi à un parler franc, c'est-à-dire à arrêter d'employer des néologismes, de sortir de ce tabou aussi du rétablissement de la sélection, et qui dit lui-même, c'est un peu la novlangue actuelle, qu'avant on parlait de prérequis, maintenant dans cette nouvelle loi on parle d'attendus pour pouvoir entrer à l'université. Les attendus pour vous sont pas une forme de sélection, c'est pas une forme détournée de conditions d'accès à l'université, Olivier Beau, Christophe Charles ?
Moi, il me semble que, de toute façon, il y a, même si on suit Olivier Beau dans son projet, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'auront pas ni les grandes écoles, ni les BTS, ni les STS, ni les universités ? Parce qu'à ce moment-là, tout le monde, il y en aura forcément qui n'auront pas les quatre. Du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ça veut dire qu'eux, ils n'auront rien.
Non, mais Christophe Charles, est-ce que cette loi, non, la question, c'est est-ce que cette loi introduit une forme de sélection ?
Elle introduit
à travers
forcément,
notamment
puisque moi, je vois bien dans mon université, on a déjà commencé à réfléchir qu'est-ce qu'on fait avec les demandes des étudiants. On va d'abord regarder ceux qui ont quand même, en tout cas dans les disciplines où ils veulent postuler, s'ils ont des notes correctes ou convenables dans les domaines où ils veulent entrer. Ça paraît logique, si on veut faire de l'histoire, qu'on ait quand même des notes relativement correctes en histoire. Sinon, on a assez peu de chances de rattraper son retard. Donc, on va forcément se calquer sur le modèle de l'enseignement secondaire et du baccalauréat. Donc, finalement, on continue le modèle de l'enseignement secondaire. Moi, c'est ça qui me gêne, c'est que ça veut dire qu'on ne donne pas une deuxième chance. Moi, j'ai l'expérience de mon propre fils, qui était un élève moyen, disons, dans l'enseignement secondaire, qui n'était pourtant pas dans un milieu totalement défavorisé, quand il a des parents dans l'université, et qui pourtant ne s'est vraiment épanoui qu'à l'université, parce que ça, c'était un autre modèle, c'était une autre façon de travailler, et il a eu des bien meilleures notes finalement. Et si on avait jugé uniquement sur ces notes du second degré, on l'aurait certainement évacué vers des filières moins intéressantes ou qui ne l'auraient pas forcément. Donc je trouve que là, il faudrait, enfin moi je plaide plutôt pour l'idée de la propédeutique, c'est-à-dire d'une phase d'observation, parce que je pense, et je me souviens quand j'étais étudiant à 16 ans, à 17 ans, c'est pas ce qu'on veut faire vraiment. J'avais choisi une première chose et ensuite j'ai changé, mais je pense qu'on a quand même le droit dans la vie de ne pas avoir sa vie complètement déterminée par des choix ou des non-choix dès cet âge, surtout qu'on est quand même dans des générations qui sont maintenues dans une tutelle très longue avec des études de plus en plus longues. Donc il faut leur donner une capacité, je pense, de choisir et de pouvoir éventuellement se réorienter. Donc là, on fait le choix dès le départ.
Vous êtes passé par l'université.
Non, je suis passé par des classes préparatoires, puis par l'université. Mais
en quelle année vous entrez à l'université, à peu près ?
Je suis entré en 70, donc je suis un diplodocus. Mais je veux dire...
Donc après la loi Faure.
Oui, non, mais bien sûr. Sinon, je n'aurais jamais été à l'université, c'est clair. J'ai eu le bac en 68, donc c'est tout vous dire.
Ouais, je partage entièrement le point de vue voilà. De Christophe Charles sur la nécessité d'une
propédeutique. Il y a des secrets qui se révèlent encore.
Antoine Compagnon en parle, évidemment. C'est ce qui est insatisfaisant dans cette loi, c'est qu'effectivement, l'année de remédiation n'a pas été pour des raisons financières. Donc on a un système, il est prévu pour les oui-si, ceux qui viennent à l'université avec une condition, c'est qu'ils acceptent une formation complémentaire, mais qui n'est pas suffisante. Et donc là, il y a un problème, c'est qu'on n'a pas réussi à imposer cette année de remédiation, cette année de propédeutique, principalement pour des raisons financières, parce que ça coûte cher. Donc la première absurdité, c'est que l'université souffre tout simplement de l'effondrement de l'enseignement scolaire. Voilà, c'est parce qu'on arrive, on a désormais un clivage trop grand entre des enseignants qui sont censés être des enseignants-chercheurs, qui ont fait des thèses, etc., qui ont fait un effort considérable pour devenir universitaire et qui se retrouvent face à des étudiants qui sont mal formés ou pas du tout formés. Voilà, donc c'est ça le problème que tout le monde ressent. Il y a ça dans les causes. Et ça me paraît absolument fondamental. Maintenant, il est évident que la situation actuelle est transitoire, il va y avoir une adaptation. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'était un peu le propos du livre qu'on avait fait avec François Vatin et Alain Caillé sur Refonder l'université. La thèse centrale de ce livre, c'est que l'université n'est pas faite pour la politique de la jeunesse. La politique de la jeunesse, c'est autre chose. L'université a un rôle qui n'est pas le sien. C'est un rôle qui est de parking social, qui n'est pas du tout son rôle. Et simplement, on instrumentalise l'université pour contenir la bombe à retardement qui est effectivement le possible chômage de ces jeunes mal formés. Donc l'université, je suis désolé, dans aucun pays du monde, l'université a ce rôle. En France, elle a ce rôle, ça satisfait tout le monde, ça ne gêne personne, que les universitaires, mais c'est rien, on pèse rien politiquement, et c'est pour ça que depuis des années, on fait jouer à l'université un rôle qui n'est pas le sien. Et c'est pour ça que dans la conception qu'on doit avoir de la sélection, c'est un tout, tout dépend de ce qu'on appelle l'université. Si l'université, c'est là pour entretenir des gens qui ne sont pas formés et les garder pendant un ou deux ans pour faire baisser le taux de chômage, eh bien pour moi, c'est un non-sens. Et cette loi, j'espère en tout cas, c'est le début peut-être du fait qu'on va revenir sur cette situation et qu'on va progressivement ajuster l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur. Et c'est le pari de cette loi. J'espère que ça réussira. Il est possible qu'il échoue puisqu'il y a une manifestation très forte. J'espère que ça réussira pour cela.
Parce que c'est un début. Et pour vous, l'université, idéalement, Olivier Beau, doit former les esprits, transmettre acquis et valeurs essentielles, demeurer autonome, un monde à part, garantir la liberté de l'enseignant-chercheur dans les grandes lignes.
Oui, je suis très conscient en tant que juriste. Forcément, nous, en tant que juriste, on est toujours confronté à la question, est-ce que c'est une école de droit ou est-ce que c'est une faculté ? École de droit, c'est-à-dire vous êtes une école d'application, les avocats, vous êtes des étudiants bien formés, tout de suite employables. Il y a une grosse pression. Je vous renvoie au rapport de M. Barrois, avocat, droit des affaires, enfin très connu, évidemment, qui veut des étudiants en droit immédiatement employables parce que ça ne coûtera rien. Bon. Et ça, c'est la vision que je ne partage pas. Puis il y a la vision universitaire, la faculté de droit, c'est un lieu de formation d'un juriste qui va devenir polyvalent et qui toute sa vie pourra s'adapter parce qu'il est bien formé. Et c'est ça qui compte. Et donc, ça suppose qu'il faut effectivement une réflexion, que l'université, c'est un lieu où on doit transmettre un savoir élaboré. Il n'y a que ceux qui créent ce savoir, les universitaires, ils le créent par la recherche, qui doivent l'enseigner. C'est la différence avec l'enseignement secondaire. Et donc, donc, il faut pour ça garder cette spécificité universitaire. C'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec Christophe Charles sur l'impératif de la professionnalisation qui tue l'université, qui transforme l'université en école.
Une question d'Antoine Mercier.
Oui, mais malgré tout, vous dites que ça permet, quand on a une formation, disons, en soi, ça permet d'être mieux formé pour effectivement être utile à la société et changer de toi. Donc, il y a quand même des finalités utiles pour la société.
Prenez l'exemple l'exemple qu'on sait tout le temps, les gens d'Oxford et de Cambridge. Très souvent, ils réussissent ailleurs que là où ils ont été formés. Et avant, on disait le droit mène à tout. Combien de juristes se sont ennuyés à devenir des juristes une fois qu'ils ont eu leur diplôme de droit, ont brillamment réussi ailleurs. Mais c'est une base, c'est un départ, ça vous forme un esprit, un raisonnement. raisonnement, et c'est à partir de là, mais simplement comme les universités sont mal vues en France, et que c'est les grandes écoles qui captent tous les cadres par leur réseau, les universitaires, les doctorants, les docteurs trouvent pas d'emploi en France. Ce qui est un scandale, parce qu'on a un système de caste.
Et pourquoi ne pas donner cette chance-là à tout le monde, chacun selon ses moyens, finalement, d'être bien formé.
Il y a un moment donné, quand vous avez le problème des bacs professionnels, quand vous avez des gens en droit qui ne savent pas maîtriser la langue écrite, comment voulez-vous qu'ils deviennent des juristes? J'ai enseigné pendant 5 ans à Assas, sa première année. J'avais 600 élèves. Premier partiel au mois d'octobre, novembre. Sur 600 étudiants, 200 entre 0 et 5. Et ils étaient perdus. Et c'était pas de ma faute, mais ils n'avaient pas la base, ils n'avaient pas les bases. Donc ces gens-là, on les envoyait, en quelque sorte, au massacre. Sans aucun état d'âme. Personne n'en parlait. Mais c'était des victimes du système. Et moi, je pense qu'il faut lutter contre, justement, pour empêcher que ces gens-là ne soient plus des victimes.
13h22 sur France Culture avec nos invités, le juriste, professeur agrégé droit public à l'Université Paris 2, Olivier Beau, que vous venez d'entendre, et l'historien Christophe Charles, professeur à Paris 1, qui fait partie des signataires de cette tribune parue sur le site du France Info qui dit non à la nouvelle loi d'orientation et de réussite des étudiants mise en œuvre par le gouvernement votée le 15 février dernier.
France Culture. La grande table, Olivia Gesbert.
Un petit détour par l'histoire de la démocratisation à la sélection à l'université. On entendait tout à l'heure les mots d'Edgar Faure évoquer cette question de la sélection et celle de la démocratisation. Loi Faure de 68, fin de la sélection. Loi Savary de 84, début de ce que vous appelez, Olivier Beau, la bureaucratisation de l'université. Loi Pécresse de 2007, où que l'on rapproche souvent de cette idée de marchandisation du savoir ou d'un savoir utile des étudiants qui devraient apprendre des choses qui leur permettraient de mieux s'insérer sur le marché du travail. Quelles évolutions, quelle continuité voyez-vous depuis 68 jusqu'à aujourd'hui? Quelle continuité, quelle trajectoire empruntée par la loi sur cet état d'esprit de l'université?
Il faut tenir compte de certaines périodes. Hein, donc, on peut dire qu'il y a une première phase, effectivement, avec Edgar Faure, qui a essayé, en quelque sorte, d'apaiser les choses en ouvrant... En évitant la sélection et en intégrant les étudiants grâce au principe des élections dans les conseils d'administration. Donc là, on était dans une phase un petit peu d'ouverture, de démocratisation. Et puis, progressivement, on est revenu en arrière, enfin, à plusieurs reprises, par rapport à ce climat très, très optimiste. D'abord, à cause, effectivement, de la dégradation du système économique, hein, l'augmentation du nombre de chômeurs et l'augmentation, notamment, du chômage des jeunes. Et c'est là, après, qu'on a lancé le nouveau mot d'ordre qui était la 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat, par Jean-Pierre Chevènement, qui pouvait effectivement donner l'espoir qu'on allait ouvrir une possibilité à de nouvelles catégories. Et effectivement, il y a eu une croissance considérable, puisque je rappelle, en 68, on était à 600 000 étudiants, et aujourd'hui, on est à 2,6 millions, ce qui est quand même... on est dans un autre monde, hein, quand même. On a multiplié par 4, mais en même temps, avec une dégradation de la partie universitaire, puisque... C'est elle qui a absorbé le plus gros, évidemment, du choc démographique. Et inversement, une resélection beaucoup plus forte, parce que moi, je me souviens qu'en classe préparatoire, il y avait beaucoup moins de gens, quand j'étais jeune, qu'aujourd'hui. Hein. Et donc, on voit qu'il y a une fuite vers ces secteurs sélectifs. Mais en même temps, par définition, ces secteurs sélectifs n'absorberont pas la totalité de la croissance démographique. D'où, effectivement, ce phénomène de ciseaux dont parlait Olivier Beau, avec une dégradation accrue de la partie universitaire et, au contraire, une fermeture sur elle-même des différentes filières sélectives. Donc là, on est dans une contradiction qui n'a jamais été résolue. Et aucune des lois que vous pouvez citer, que ce soit la loi Pécresse, que ce soit la loi Savary ou que ce soit la loi Fioraso, n'ont jamais affronté cette question. Ils ont toujours détourné les choses en disant c'est la faute aux enseignants ou c'est la faute aux étudiants parce que soit ils travaillent pas, soit parce qu'ils ont des vœux utopiques, mais ils n'ont jamais affronté le fait que les structures, c'est quand même le gouvernement qui les assume, et en ne changeant pas ces structures, on maintient les mécanismes qui créent les problèmes. Or, aucun gouvernement n'a pris ces choses à bras-le-corps. Il y avait un projet dans certains attendus des 110 propositions de François Mitterrand, certains s'en souviennent peut-être, d'essayer de rapprocher les deux secteurs. Mais ça a été profits et pertes dans les projets de la gauche.
Mais vous diriez aujourd'hui, Christophe Charles, que ce double mouvement, à la fois d'autonomisation de l'université et d'ouverture, a abouti à ce que l'on souhaitait, c'est-à-dire une démocratisation de l'université,
oui,
ou à une massification.
Donc ça a réussi, massification et quand même démocratisation, puisqu'il y a quand même beaucoup plus de gens issus des milieux modestes à l'université qu'il n'y en avait en 68. Hein. Même si vous avez un taux de 7 ou 10% de gens de milieux modestes, quand vous appliquez à 600 000 ou à 2,5 millions, vous n'avez pas exactement
mais
le même nombre de gens
concernés. Massification, ce n'est pas péjoratif pour vous, ce n'est pas une dévalorisation de l'institution.
Ça a été péjoratif dans la mesure où on n'a pas donné les moyens, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la hauteur pour que cette augmentation des effectifs ne se traduise pas par une dégradation relative des conditions de travail. Il suffit de savoir que dans ma propre université, on a à peu près 1,5 m² par étudiant à notre disposition, ce qui est quand même pas beaucoup. Heureusement qu'il y en a beaucoup qui ne viennent pas à tous les cours. Mais je veux dire, ça veut dire que effectivement, c'est une façon de décourager les gens, de les mettre dans des mauvaises conditions de travail. Et c'est pour ça que dans les taux d'échec, il y a aussi l'abandon d'études, il y a aussi le fait qu'on ne va pas aux examens parce qu'on ne se sent pas prêt, etc. Donc tout ça, c'est parce que le climat est mauvais, que les conditions de fonctionnement sont mauvaises et que, effectivement, les échecs et cette sélection négative se développent.
Olivier Beau.
Oui, parmi les choses les plus dommageables pour l'université dans les dernières années, c'est l'augmentation du nombre de places dans les classes préparatoires, notamment sous Pécresse, le fait qu'on a multiplié les classes prépa dans les départements, ce qui évidemment assèche l'université. Donc on est toujours dans cette situation, l'université est défavorisée, est désavantagée. La loi Pécresse, elle a donné des privilèges très importants aux grandes écoles qui deviennent ou qui revendiquent être donc des universités. Donc à chaque fois, l'université est perdante. Donc je constate simplement que la seule manière, à mon avis, de s'en sortir, c'est qu'on puisse, que l'université puisse se reprendre en main et puisse choisir ses étudiants. Dernier mot, là il y a une recentralisation, c'est pas du tout conforme à l'autonomie ce qui se passe, parce que c'est l'autorité académique, le recteur, qui va fixer les capacités d'accueil. Et donc il y a un drôle de problème d'autonomie qui est totalement factice en France.
Sans parler de la dégradation financière qui fait que quand les budgets sont en déficit, c'est là aussi le recteur qui reprend en main l'organisation de l'université quand les présidents n'ont plus les moyens de travailler.
On conclut avec vous, Antoine Mercier.
Oui, non, moi j'avais l'impression que je voudrais demander, pour revenir à l'actualité, à Christophe Charles, comment ça se passe? Parce que vous avez signé ce texte, cette tribune, et on nous dit que c'est impossible de faire cette sélection, même si on veut la faire. Comment, quelle expérience vous en avez-vous?
Je pense, c'est qu'on va recourir effectivement à des méthodes mécaniques, parce que quand vous avez des milliers de dossiers sur une table et qu'il faut rendre une réponse à une certaine date, vous utilisez des moyens mécaniques, c'est-à-dire première élimination, les notes, deuxième élimination, la région d'origine, on va prendre ceux qui sont proches parce que c'est plus logique de prendre ceux qui sont dans notre secteur, et troisième élimination, est-ce que éventuellement ils sont boursiers ou pas boursiers, donc on va essayer de faire un geste social pour se donner bonne conscience. Voilà ce qui va se passer dans la réalité.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Christophe Charles. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Histoire des universités. Il est paru au PUF en 2012. Merci à vous, Olivier Beau. Merci. Les libertés universitaires à l'abandon. C'est paru chez Dalloz en 2010. Voilà pour, en tout cas, deux ouvrages en lien avec le thème de l'émission du jour. Merci à Antoine Mercier qui m'a accompagné. Quand une grande table se referme, une autre s'ouvre immédiatement sur franceculture.fr où vous pouvez réécouter l'émission, vous abonner au podcast ou nous écrire. Un grand merci à toute l'équipe de la grande table qui a programmé et préparé cette émission, Claire Maillot et Clémence Marie, Henri Leblanc et Maxime Morin, avec l'aide précieuse, très précieuse, d'Émile Boutelier et de Liana Valken. À la réalisation aujourd'hui, Perret Legras avec Antoine Pitilon. Très bel après-midi à tous.